Heure d'ici.
Du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Du Trisac.
Antoine Joubert est avec nous, il est chroniqueur automobile pour le Guide de l'auto. Monsieur Joubert, bonjour.
Bonjour.
Hey, la semaine passée, je parlais à Fred Mercier, je l'ai mis sur une mission. Puis hier, j'ai parlé à Jonathan Julien, le ministre des Ressources naturelles. Puis je lui posais la question, puis je la pose, Antoine, pour que tu cogites là-dessus, puis que tu me trouves une réponse. Je me fie sur toi. Pourquoi est-ce qu'on peut changer des pièces d'une voiture à essence, mais qu'on ne puisse pas changer la batterie d'une voiture électrique?
Ben, en fait, on peut la remplacer, la batterie d'une voiture électrique.
C'est vrai?
Non seulement on peut la remplacer, mais il y a des entreprises comme Dorman qui sont spécialisées dans la reproduction de batteries d'après-marché qu'on peut vous vendre à prix moindre. Donc ça, c'est totalement disponible. La chose, par contre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de demandes parce que les voitures électriques, de façon générale, évidemment, je parle des hybrides comme des électriques, la demande pour les batteries est encore faible parce que ça dure très, très, très longtemps. Donc là, on commence à voir des voitures électriques ou hybrides qui ont besoin de voir leur batterie remplacée. Mais honnêtement, il y a des Toyota Prius qui ont 15, 17, 18 ans qui roulent sur les routes. Les batteries, c'est encore les batteries d'origine. Et il y a des voitures électriques qui ont maintenant près de 10 ans et qui roulent encore sur leur batterie initiale. Par contre, je sais que du côté de Nissan, ben, les premières Leaf, comme celles que tu conduis, ouais, ça a été un problème un peu plus important et il va falloir adresser le problème, mais honnêtement, de façon générale, la demande n'est pas très forte.
Sauf OK, mais au lieu de, parce que c'est toi qui me disais les livres sont à 5000 pièces à l'encan. Au lieu de vendre, de me débarrasser de ma voiture qui va très bien, que j'aime beaucoup, qui a quoi, ouais, 50 000 kilomètres dessus là, qui, c'est une vraie joke. Je paierais, puis je ferais changer la batterie, puis pour une autonomie plus longue.
Ben c'est ça. Sauf que évidemment, tu sais comment le marché se promène, c'est un peu le même principe qu'un ordinateur. Tu sais, il y a quelques iPhone, ouais, ou je sais pas.
Ouais.
Ça évolue tellement rapidement que les gens n'ont plus d'intérêt pour les produits qui ont que quelques années et qui sont déjà désuets, si tu me permets l'expression. Fait que c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve. Tu sais, moi j'ai un ami personnel qui a une Focus électrique. Cette voiture-là a 120 km d'autonomie. Il n'est pas capable de vendre ça. Il est collé avec.
Ben non, c'est ça.
Il n'y a pas d'intérêt pour cette auto-là. Et pourtant, ça enlève rien aux qualités de la voiture. C'est juste que la technologie des voitures électriques a évolué tellement rapidement qu'aujourd'hui, on est davantage intéressé à aller vers un véhicule qui a une meilleure autonomie et dont la thermorégulation de la batterie est plus efficace.
OK, mais je veux pas insister là, Antoine, mais ton ami là qui a une Ford Focus, là, s'il l'aime, puis si elle est payée, Ford pourrait prendre la batterie, la recycler et lui installer une batterie avec une longévité, une autonomie plus longue.
Mon cher Benoît, faudrait pour ça que Ford soit intéressé à le faire et je pense que c'est pas le cas.
Ah, moi je pensais que les fabricants d'auto avaient des bonnes intentions.
Ouais, c'est ça.
Non, hein? Non,
oui,
je suis vraiment sans dessin. Bon, alors, il y a deux best-sellers qui viennent d'être dévoilés justement chez Ford.
Oui, en fait, Ford F-150 2021, je pourrais donner, en fait, c'est un peu dommage qu'on en parle aujourd'hui, non pas demain, parce que demain sera levé l'embargo sur les détails que je pourrais donner sur le véhicule ou sur les impressions, du moins. Mais on arrive chez Ford avec un F-150 retravaillé, revampé, nouvelle carrosserie, nouvel habitacle, beaucoup, beaucoup de technologie à l'intérieur. On a vraiment pensé à tout. Tu peux baisser le hayon en arrière, il y a des mesures sur le hayon, il y a des ancrages pour placer des étriers à même le hayon, il y a des prises 240 volts, 120 volts dans la caisse pour faire fonctionner tes outils. On a vraiment, vraiment pensé à tout avec ce camion-là. Et la grande nouveauté cette année, c'est qu'on ajoute une sixième motorisation qui, elle, va peut-être t'interpeller un peu plus parce que c'est la première fois qu'on offre un hybride complet sur une camionnette pleine grandeur. On l'avait fait dans le passé chez GM avec un hybride deux modes, mais qui était aucunement efficace, honnêtement. Mais là, c'est un vrai Ford F-150 hybride. qui promet des cotes de consommation combinées équivalentes à celles du diesel, donc 9,8 litres au 100. C'est exactement la même cote en ville que sur route en passant, fait que c'est assez intéressant de voir ça. 9,8 litres au 100 pour un camion qui est capable de remorquer 12 700 livres,
wow.
430 chevaux et 570 livres-pieds de couple. Alors moi, j'ai hâte de le mettre davantage à l'essai pour voir si les cotes sont réalistes, parce qu'évidemment, faut que ça tienne la route, là, ces cotes-là. Mais pour l'instant, ça, on a donc deux camionnettes qui sont pour moi assez intéressantes, une avec le diesel 3 litres et une en version hybride, qui ont toutes les deux des capacités intéressantes et qui consomment pas trop de carburant. Puis on a majoré aussi la puissance du moteur V8, du moteur 6 cylindres EcoBoost de 3,5 litres à 400 chevaux. On a retravaillé tout ça. Fait que on a au total 6 motorisations dans le F-150 cette année. Une panoplie de versions. Et la bonne nouvelle, la version hybride sera disponible sur l'ensemble de la gamme, donc de la version de base Excel jusqu'au modèle Limited le plus équipé,
okay,
qui peut frôler les 100 000 $ là, évidemment.
Mais là, je vais te parler tantôt de la fin des autos à essence. Là, tu veux en parler aussi. Puis ouais. J'ai vu qu'en Royaume-Uni, c'est 2030 aussi. Là, il y a un mouvement. Mais finissons avec ce sujet, les best-sellers Honda Civic 2022.
Ben, qu'on a dévoilé hier sur une plateforme qui s'appelle Twitch, qui m'était totalement inconnue, ce qui vient prouver mon âge.
Parce que... Bienvenue dans le club.
C'est ça, exactement. Alors, moi, j'avais pu recevoir les images au préalable, là, mais c'était quoi l'idée d'aller dévoiler une voiture sur Twitch? Peut-être qu'Honda a besoin de rajeunir sa clientèle, parce que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les acheteurs qui achetaient des Civic il y a 20 ans, ben, on continuait d'acheter des Civic, mais la clientèle ne s'est pas renouvelée autant qu'on l'aurait souhaité. Donc, on n'a pas attiré autant de jeunes acheteurs que par le passé. Évidemment, parce que la Civic a perdu un peu de son cachet dynamique, sportif, cool qu'on aimait dans les années 80-90, début 2000. C'est plus le cas du tout. Et ce qu'on a dévoilé hier, ben, c'est à mon sens, une continuité de la génération actuelle. Un design qui est un peu mieux réussi, à mon avis, mais qui réinvente pas grand-chose. On a confirmé, par contre, qu'on ramènerait une version hatchback. Ça, j'étais content parce que on se demandait si la version hatchback reviendrait dû au fait que la version actuelle, elle est fabriquée du côté de l'Angleterre et que ce n'est pas viable financièrement pour Honda Canada de vendre cette voiture-là ici. Donc, ça coûte trop cher Honda de l'importer. Donc, c'est pour ça que les taux d'intérêt sont tout le temps plus élevés, que la voiture est un peu plus chère.
Ah oui. Est-ce que Honda s'est fait doubler par les Coréens, par même tu sais, ceux qui veulent mettre des néons en dessous de leur voiture, là, ils font ça sur des Subaru. Est-ce que Honda Civic s'est fait doubler parce qu'ils n'ont pas vu qui était vraiment leur clientèle?
Ben en fait, moi je te dirais que la perception que j'ai, puis c'est une perception bien personnelle, mais je n'ai pas l'impression qu'Honda a la même fougue qu'à une certaine époque. On n'a pas envie, on n'est pas audacieux, on n'a pas, tu sais, on veut offrir un produit super, de façon super prudente. Oui, on va offrir de la technologie, on va offrir des éléments de sécurité à profusion, une bonne valeur, un bon rapport qualité-prix. On va demeurer tout le temps là-dedans, mais on n'est certainement pas aussi audacieux que dans le passé. On n'est pas champ gauche, on se démarque pas, et je trouve ça un peu dommage. Moi, je vais toujours retenir la phrase suivante. Un des stratèges de Honda m'avait dit il y a quelques années, si on pouvait fabriquer juste des voitures noires, ça ferait bien notre affaire. Ça prouve le niveau de passion,
parce que
on n'a pas envie de gérer des inventaires, des couleurs, des ci, des ça. Tu sais, le gars me parlait, puis j'avais l'impression qu'il aurait pu vendre des réservoirs d'eau chaude puis des matelas, puis il aurait été aussi passionné. Là.
Moi, c'est
un peu ce que je trouve dommage du côté d'Honda aujourd'hui. J'espère me tromper en te disant ça, mais c'est vraiment la perception que j'ai depuis quelques années. On s'assoit sur ses lauriers, puis on laisse la vague passer, puis tu vois, la Civic tranquillement se fait rattraper par la compétition. En fait, les ventes demeurent les plus élevées au Canada dans le segment. mais en pourcentage, on perd du terrain par rapport à la compétition et on se fait doubler aussi par le fait que les VUS prennent de plus en plus de popularité et que les voitures compactes en perdent. Mais effectivement, tu as raison, les Coréens s'en viennent à 200 000 à l'heure et je ne serais pas surpris de voir les Coréens aller chatouiller les ventes de la Civic très rapidement. Il faut savoir que Hyundai débarque avec une nouvelle Elantra cette année au design assez audacieux. Ouais. On va avoir une version hybride qui va consommer à peine 5 litres au 100, que Honda n'a pas confirmé encore.
Et la gamme de Ioniq aussi chez Hyundai là qui s'en vient.
Oui, la gamme Ioniq, mais la gamme Ioniq connaît du succès chez nous un peu moins à l'échelle nord-américaine. Honnêtement, c'est une voiture peut-être un peu trop petite et mal adaptée aux besoins des acheteurs nord-américains de façon générale.
Okay.
Ben, pas aux besoins, mais disons au désir. Tu sais, parce que c'est le même principe ici. On se demande pourquoi Volkswagen a retiré la Golf alors qu'elle se vend super bien. Ben, elle se vend bien chez nous, mais ailleurs en Amérique du Nord, c'est pas le cas.
Nous sommes donc une société distincte, Antoine.
Absolument. Ouais. En choix automobile, ça, c'est clair.
Ouais. Ouais. Avant qu'on se quitte, le gouvernement Legault l'a annoncé, la fin des autos à essence en 2035. Ce matin, je lisais que Boris Johnson, premier ministre du Royaume-Uni, annonçait la fin des voitures à essence d'ici 2030. Il y a comme un mouvement là qui s'en va dans le même sens.
Ben, il y a un mouvement intéressant, oui, du côté, et moi je crois que ça va arriver du côté de l'Europe beaucoup plus rapidement que chez nous, mais honnêtement, 2035, ça semble loin, mais c'est vraiment pas si loin que ça. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que d'ici quelques années, on forcerait les constructeurs automobiles à ne développer que de l'électrique ou de l'hybride rechargeable. Et moi, je pense que c'est un peu utopique de penser que ça va arriver, du moins en Amérique du Nord. Parce que chez nous, il y a une logique. Au Québec, c'est totalement logique. L'électricité, elle est accessible, elle n'est pas chère, elle est propre. Mais est-ce que c'est le cas pour l'ensemble de l'Amérique du Nord? Absolument pas.
Ouais.
Et il y a certains États aux États-Unis où l'électricité coûte plus cher que l'essence et où l'électricité est moins propre que l'essence.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, cette réalité-là ne peut pas avoir lieu d'être, ne peut pas être logique dans des États comme la Géorgie, au Texas, à certains endroits, où on vend le gallon d'essence 1,50 $ et où l'électricité est faite à partir de charbon. Mmh. Il va falloir que ça change pour que les constructeurs automobiles acceptent, parce que, je veux dire, quel est le poids du Québec dans une mer nord-américaine où les marchés sont très distincts d'un endroit à l'autre? Moi, c'est ça mon bémol. Maintenant, est-ce que pour le Québec, je trouve ça logique? Absolument.
Mais c'est vrai, parce que tu sais, si tu fabriques de l'électricité, si tu produis de l'électricité avec des centrales nucléaires, puis les déchets de la centrale nucléaire nous empoisonnent pour des milliers d'années à venir, je comprends qu'il y a moins de gaz à effet de serre, mais tu es en train de contaminer la planète, là.
Ah ben oui. Puis je veux dire, il y a un lobbying des constructeurs automobiles qui est très fort, il y a un lobbying des pétrolières qui est très fort. Donc est-ce que Québec est capable de faire le poids et convaincre un Ford, un GM, un Chrysler, un Toyota de fabriquer que des voitures hybrides ou hybrides rechargeables ou 100% électriques? Moi, je pense qu'on a besoin de se lever de bonne heure et de travailler très fort. Demain, la veille, que ça va arriver.
Et tout le marché des voitures d'occasion aussi, là, c'est comme si on n'en parlait pas de ça non plus.
Ben, en fait, le marché des véhicules d'occasion demeurerait le même. Je veux dire, ça changerait pas. Puis je pense qu'au cours des prochaines années, si on maintient cette annonce-là et ce désir-là d'avoir des véhicules uniquement rechargeables ou 100% électriques en 2035, ben on va probablement au cours des prochaines années, apporter quelques nuances. Par exemple, vous avez besoin d'un véhicule à X nombre de passagers, vous pourriez être exempté. Vous avez besoin d'un véhicule pour des raisons commerciales, et là, le commerce pourrait avoir le dos très large, ben vous seriez exempté. Ce qui veut dire que on pourrait au final continuer à vendre des véhicules à essence traditionnels, probable avec des cotes de consommation bien inférieures à celles qu'on connaît aujourd'hui, là, espérons-le.
Mm-hmm.
Mais je ne crois pas que la voiture électrique est la solution pour tout le monde. La voiture électrique est la solution pour beaucoup de gens, mais je ne crois pas que ce soit la solution pour tout le monde. Et je pense que des différentes technologies peuvent cohabiter. Sauf que oui, il faudrait légiférer pour éviter que un individu seul se promène avec un RAM à moteur MI dans le trafic en ville. À un moment donné, il y a ça qui est pas logique. Puis actuellement, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, là. Je veux dire, le véhicule familial traditionnel, c'est un F-150. Est-ce que ça, ça a du bon sens? Bon, c'est là, je pense, qu'il faut peut-être aller...
La pression va c'est ça. On va commencer à faire pression là-dessus. Antoine Joubert, c'est toujours un plaisir du Guide de l'Auto. Merci, à la semaine prochaine.
Grand plaisir. Bye-bye.
Salut.
Bye.